je viens en troisième lieu. Alors, c'est un défi pour le deuxième, imaginez pour le troisième. Mais j'essaierai donc de faire l'économie de beaucoup de statistiques. Et je voudrais d'abord féliciter l'UQAM de cette initiative. Je pense que c'est très important, d'une part, de parler plus du Mexique et aussi d'avoir des échanges entre des praticiens, si vous voulez, de la politique étrangère et les milieux académiques. On ne l'a pas si souvent. Et quelquefois, nous, quand on est praticien, on s'aperçoit que... Parce que cette connaissance-là n'est pas très approfondie, ça peut entraîner des espèces d'incompréhension des décisions gouvernementales dans le milieu académique ou quelquefois même véhiculer, je dirais, des fausses vérités ou de mauvaises interprétations de ce qui se passe. Alors, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous faire part de ma modeste expérience dans les relations Canada-Mexique et aussi un peu d'envisager avec vous quels pourraient être les défis pour l'avenir. D'abord, je voudrais dire que j'étais à Mexico, moi, dans les années 90. C'est un moment crucial parce que c'est le moment où le Canada a voulu se doter d'un fondement permanent dans nos relations bilatérales. C'est toujours un peu ce qui a manqué dans les relations entre le Canada et le Mexique. Il y a des volontés d'approfondir, mais il n'y avait pas, si vous voulez, un fondement solide. Et l'accord de libre-échange l'a donné. Alors, j'aurai l'occasion de parler plus en détail de l'impact de cela. Mais d'abord, je voudrais juste faire un petit raccourci historique. Je n'irai pas aussi loin que mon collègue, le consul général, qui est parti au début du siècle. Moi, je vais commencer, si vous voulez, avec le début des relations diplomatiques en 1944 et dire que dans toutes les années qui ont suivi, même si le Mexique a toujours été, je dirais, un partenaire important pour le Canada, avec des hauts et des bas, des moments où de grands désintérêts, des moments que j'appellerais peut-être des périodes d'or, où là, il y a eu des relations très étroites. Mais quand même, il faut rappeler que déjà dans les années 50, début 60, le président mexicain Mateos était venu au Canada et le premier ministre Diefenbaker est allé au Mexique. C'était une époque où les chefs d'État, de gouvernement voyageaient peu. Alors, déjà qu'il y a eu ces deux voyages-là, ça indique que le Mexique était important pour le Canada. Ensuite, dans les années 68, on a créé la commission mixte bilatérale Canada-Mexique. Et ça aussi, c'était un moment important. C'est un instrument qui était un peu en veilleuse, mais qui se révélera très, très crucial, je dirais, dans les années 90. Donc, on a créé cette commission mixte. Et ensuite, il y a eu les années Trudeau. Et les années Trudeau, parce que le premier ministre Trudeau avait une politique internationale beaucoup, je dirais... pas interventionniste, mais active, le Mexique a été un des partenaires importants dans cette période-là. Et il ne faut pas oublier les liens, et là je dirais que c'est peut-être été la première période d'or entre le Canada et le Mexique, c'était les liens entre le premier ministre Trudeau et le président López Portillo. Et c'était à l'époque où on parlait des questions Nord-Sud, il y a eu le fameux sommet Nord-Sud de Cancun, et c'était le premier ministre Trudeau et le président López Portillo qui tous les deux étaient vice-présidents de ce mécanisme là, qui tous les deux ont été, la conférence a été bien sûr à Cancun, mais tous les deux étaient l'autre, et ça a été un effort majeur à l'époque, si vous voulez, de toute la communauté internationale, pour essayer à l'époque on appelait ça un nouvel ordre économique mondial, on était très optimiste et irréaliste, mais quand même ça a été un effort très important pour rapprocher le Nord du Sud et essayer de développer des mécanismes qui amèneraient une meilleure coopération. Bien sûr, ça a été beaucoup dépassé après par les événements et c'était un élément très important, cette coopération-là et ces relations entre Trudeau et López Portillo. Ces bonnes relations-là aussi avaient leurs limites. Par exemple, le Canada, à cette époque, a espéré vendre un réacteur nucléaire Candu au Mexique, qui aurait été vraiment là, qui aurait été une décision économique très, très importante. Le Mexique a refusé. Le Canada, à l'époque, c'était à l'époque de la crise énergétique, aurait souhaité que le Mexique s'engage pour exporter au Canada 100 000 barils de pétrole par jour. Le président López Portillo a réglé pour la moitié, pour 50 000. Donc, c'est pour vous dire que même s'il y a de très bonnes relations, quelquefois, il y a des intérêts, et ces intérêts là apporte des limites, si vous voulez. Dans ces années-là aussi, un élément très intéressant qui est souvent oublié, ça a été l'occasion du premier sommet trilatéral. C'est dans ces années-là, au début des années 80, où le président Reagan, López Portillo et Trudeau se sont rencontrés. C'était à l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque du président Ford, mais ça a été la première rencontre trilatérale. Et ça donnait déjà une indication de ce qui allait venir. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à cette époque-là, le président Reagan était le promoteur d'un accord nord-américain. Et là, le Premier ministre Trudeau et le président López Portillo, tous les deux se sont unis pour refuser cet accord nord-américain que proposait le président Reagan. Quelques années plus tard, c'était tout le contraire. Mais donc, il y a eu cette époque-là. Ensuite, il y a eu les années 80, et là, on arrive aux années 90. Et c'est un moment très important pour le Canada. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au début des années 90? Le Canada a joint l'OEA. Et ça, c'est une décision fondamentale. Je crois que ça signifie que pour la première fois dans sa politique étrangère, le Canada acceptait son destin américain. Le Canada qui, surtout en raison de la guerre froide, qui a sans doute amené une distorsion dans les relations internationales, la guerre froide a fait que le Canada s'est concentré beaucoup sur les questions de sécurité en Europe et ailleurs, la lutte contre le communisme et tout, et qu'on a un peu négligé par la force des choses notre région naturelle qui est les Amériques. Et le Canada, qui fait partie des Amériques, même s'il est très au nord, avait une espèce de conception de lui-même qui n'était pas un pays des Amériques, en quelque sorte. On a toujours refusé d'aller à l'OEA parce qu'on voyait nos relations à travers le prisme de Washington et on ne voulait pas avoir à prendre position sur des enjeux latino-américains qui pourraient avoir un impact sur nos relations avec Washington. Donc, on refusa en quelque sorte notre destin américain. Et ce qui s'est passé en 90, c'est que le Canada a accepté ce destin américain-là, en étant membre de l'OEA. Et c'est aussi à une époque où la globalisation faisait en sorte que tous les pays étaient à la recherche de leur propre région, où est-ce qu'ils allaient avoir, pour avoir créé soit des espaces de libre commerce et autres. Et là, le Canada a eu cette décision-là de dire « oui, nous sommes un pays des Amériques ». Et c'est une décision fondamentale qui a changé notre politique étrangère, si bien qu'aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les priorités de la politique étrangère canadienne, les Amériques font toujours partie des trois priorités. Alors, que le Canada devienne un pays des Amériques donnait une nouvelle priorité au Mexique. Il y a aussi autre chose qui s'est passée dans ces années-là, c'était la signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Ça, ça a été encore un geste fondamental qui a modifié fondamentalement les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Mais c'est ce qui a fait aussi que le Canada a pu prétendre à un accord trilatéral Canada-États-Unis-Mexique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, lorsque le président Bush a parlé d'un accord, c'était toujours un accord uniquement bilatéral entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est le premier ministre Mulroney qui, en s'appuyant sur l'accord Canada-États-Unis, a convaincu le président Bush de dire que c'est impossible d'avoir un accord bilatéral États-Unis-Mexique sans avoir un accord trilatéral Canada-États-Unis-Mexique. Donc, ces deux décisions-là, l'accord de commerce Canada-États-Unis et la décision de joindre l'OEA, ont transformé fondamentalement les relations et ont ouvert la porte à ce que moi j'appelle la création du fondement permanent dans les relations Canada-Mexique, qui est l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Et là aussi, c'est un peu paradoxal, parce que si le Canada a insisté pour avoir un accord trilatéral, ce n'était pas pour développer ses relations commerciales ou économiques avec le Mexique, c'était pour protéger son accès au marché américain. Et il ne voulait pas que les Mexicains aient un accès plus privilégié que le sien au marché nord-américain, au marché américain. Donc, c'est assez intéressant de savoir que, et c'est un peu le paradoxe, si vous voulez, des relations entre le Canada et le Mexique, c'est qu'il y a toujours au centre les États-Unis et que ce n'est pas évident de développer des relations bilatérales très étroites parce qu'il y a toujours cette dimension-là qui intervient et on en parlera plus tard quand on parlera du trilatéralisme. Alors, voilà qu'en 92, on signe l'accord de libre-échange Canada-Mexique. Et là, les années 90, si vous voulez, c'était ces années-là qui ont marqué le développement de la nouvelle stratégie avec le Mexique. Par exemple, au début des années 90, j'étais à Mexico, je crois, on a pour la première fois développé des relations entre Élections Canada et l'IFE. Et ces relations-là sont devenues très importantes, si bien que Élections Canada était un partenaire, je dirais, central de l'Institut fédéral des élections à Mexico pour tous les changements qui s'est fait au Mexique au niveau démocratique. C'est aussi à cette époque-là où la commission mixte a repris, je dirais, du service et est devenue très importante. Et on avait des réunions à cette époque-là où presque le tiers du cabinet du gouvernement mexicain participait aux réunions de commission mixte. Alors, il y avait des échanges, très importants au niveau ministériel entre le Canada et le Mexique en raison de cette commission mixte qui avait été créée, comme je l'avais dit, en 68. Donc, et ces liens-là ont continué à se développer. Mais là, ensuite, il est arrivé en 94 ce que moi j'appellerais la logique du traité de libre-échange, qui faisait que le traité de libre-échange avait ses propres mécanismes trilatéraux. Et il y avait la commission du libre-échange qui faisait que, comme la commission mixte Canada-Mexique était presque victime de son succès, puisqu'il y avait au moins, je dirais, de 10 à 20 ministères mexicains qui y participaient. Chacun des ministères a développé plus ou moins ses propres liens, si bien qu'à un moment donné, à la fin des années 90, la commission mixte est devenue un peu obsolète parce que c'était un instrument qui était presque trop lourd, puisque chacun des ministères avait ses propres accords, ses propres consultations. Et ensuite est arrivée la logique du traité de libre-échange, où on avait la commission trilatérale qui, elle aussi, se réunissait au niveau. Donc, beaucoup des questions économiques ont été transférées du niveau bilatéral au niveau trilatéral. Alors, et là, si vous voulez, quand on regarde ce qui s'est passé avec le traité de libre-échange, je crois que c'est unique dans le développement des relations commerciales et économiques du Canada avec quelques autres partenaires, puisque, comme le consul général l'a dit, en 20 ans, on a sextuplé nos échanges. On est passé de 4 milliards à 36 milliards. Il y a maintenant 2500 entreprises canadiennes qui travaillent au Mexique. Les chiffres sont au niveau des investissements, on est à 14 milliards. Donc, c'est sûr que ce traité-là a un impact majeur. Et je pense que quand on réfléchit de manière générale à la conduite d'une politique étrangère, on s'aperçoit peut-être que les instruments commerciaux sont beaucoup plus déterminants pour développer les relations diplomatiques, même politiques, que les instruments diplomatiques eux-mêmes. C'est-à-dire en ce sens qu'on a beaucoup signé, le Canada, des ententes de partenariat renforcées avec des pays comme la France, le Royaume-Uni, etc., etc. Mais ça n'a jamais donné l'impact concret qu'a donné le traité de libre-échange au niveau de la multiplication, si vous voulez, des échanges commerciaux. Et en même temps, avec la multiplication des échanges commerciaux, c'est inévitable que le pouvoir politique porte plus d'intérêt à la relation et il se crée une dynamique qui est vraiment impressionnante. Et je crois que les relations Canada-Mexique, à ce niveau-là, pourraient devenir un cas d'école. Parce que quand on regarde ce qui s'y passe, le niveau qui était en 94 et le niveau aujourd'hui, c'est sans être le jour et la nuit, c'est très impressionnant. Et là, et le défi, si vous voulez, c'est lorsque vous avez ce type d'échange-là, quel genre de mécanisme vous devez créer. On avait abandonné la commission mixte, mais très rapidement, je pense à peine après 10 ans de mise en œuvre du traité, on a dû dire qu'on a besoin quand même d'outils pour gérer cette relation-là. Et ce qui est important, c'est qu'on les a créés. En 2004, on a créé ce qui s'appelle le partenariat Canada-Mexique. Donc, c'est au niveau des chefs d'État, c'est-à-dire au niveau des ministres, surtout, qui gèrent la relation. Donc, c'est un ensemble. Il y a des priorités, si vous voulez, et il y a 7 groupes de travail dans tous les secteurs importants qui vont de la mobilité du travail, l'environnement, l'économie, la mobilité de travailleurs, enfin, il y a l'agriculture, les forêts, l'environnement. Donc, maintenant, on a ces mécanismes-là. Et une chose qui est aussi importante, c'est et ça, je crois que c'est un peu l'apport du gouvernement conservateur. On faisait référence un peu à ce que Pierre disait tout à l'heure. Souvent, les gouvernements prennent des décisions et il n'y a pas de suivi. Et je crois que ça, c'est un peu l'influence du premier ministre Harper. Il a décidé que, oui, on va gérer ça, mais on va avoir des plans de travail. Alors, depuis plus de 6 ans, il y a des plans de travail de 2 ans qui sont adoptés et qui sont revus ensuite et qui sont présentés au partenariat et avec des objectifs précis. Et ça, c'est un instrument aussi très important pour gérer, si vous voulez, la relation bilatérale. Alors, le traité de libre-échange a fait qu'on a, on a dû créer ces instruments-là, et ces instruments-là, maintenant, existent. Quels sont... si vous voulez, en conséquence, les relations politiques ont dû se développer. Par exemple, le premier ministre Harper a participé à la cérémonie d'inauguration du président Calderón. Le président Nieto est venu au Canada avant de prendre ses fonctions. C'est des choses qui ne se faisaient pas avant. Alors, ça explique vraiment qu'aujourd'hui, le Mexique devient incontournable et est un partenaire important pour le Canada. La même chose, on pourrait dire, le ministre des Relations internationales du Mexique est venu ici récemment. M. Baird, quand il a été ministre, son premier voyage a été à Mexico. Donc, on reconnaît que c'est très important et on doit porter l'attention. Alors, et les instruments existent maintenant au niveau bilatéral. Je voudrais dire quelques mots de la relation trilatérale, parce que c'est très important. Quand on a signé l'accord de libre-échange trilatéral, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à rêver d'une région nord-américaine. Et si l'Europe a été capable de se développer à partir d'une entente économique, est-ce qu'il serait possible que la région nord-américaine, utilisant le traité de libre-échange, puisse aussi développer une intégration et devenir une véritable région? Là, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce que les partenaires sont tellement différents. Prenez la puissance américaine, le Mexique, qui est un pays en croissance. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, le Mexique, à l'horizon de 2050, pourrait être dans les 5-6 plus grandes économies. Le Canada, un pays de dimension, je dirais, où il y a trop de géographie et pas assez d'histoire et pas assez de population. Alors, donc, il faut être réaliste. Je pense que la relation trilatérale doit se concentrer sur des enjeux importants, comme faire fonctionner le traité de libre-échange, s'assurer qu'on puisse faire des progrès au niveau d'éliminer les barrières, essayer d'harmoniser la réglementation, les normes, etc. Il y a un autre enjeu qui est très important, tout le monde reconnaît, c'est la sécurité, la lutte contre la criminalité, surtout que la criminalité maintenant, elle est transnationale. Donc là, ça aussi, c'est très important. Au-delà de cela, autant à Ottawa qu'à Mexico, chacun juge que sa relation bilatérale avec les États-Unis est trop importante pour la diluer dans une relation trilatérale. Et on l'a vu chaque fois, quand il y a eu les événements de 2001, quand il y a eu la volonté américaine de contrôler la frontière, autant à Mexico qu'à Ottawa, on a cru qu'on avait de meilleurs instruments bilatéraux avec Washington pour régler ça. Et personne n'a cherché à avoir un règlement de la frontière au niveau trilatéral. De toute façon, les problèmes sont trop différents. Le problème, la gestion de la frontière entre le Mexique et les États-Unis est très différente de la gestion de la frontière entre le Canada et le Mexique. Donc, il se passe aussi la même chose, et ça c'est paradoxal, dans les questions commerciales. Quand les Américains quand le président Obama a fait le Buy America Act, ce sont surtout des démarches bilatérales, autant du Canada que du Mexique, avec Washington, qui ont tenté de trouver des accommodements, si vous voulez. Et encore là, il n'y a pas eu... le mécanisme trilatéral ne s'est pas révélé fonctionnel, parce que chacun des deux pays, pour le moment, pour chacun des deux pays, c'est la plus grande relation bilatérale, la plus importante, ça devient difficile de mettre en commun. Alors, je crois qu'il va falloir accepter que, au fil des ans et des dossiers, il va sans doute se construire des mécanismes trilatéraux, mais quand même, il ne faut pas rêver d'une région intégrée. C'est un accord de libre-échange qui aura des impacts. Et c'est vrai que ça amène une plus grande concertation, même, par exemple, lorsque les leaders se rencontrent des trois pays, maintenant, on discute de d'autres questions. On peut discuter des questions en Amérique latine. Quand il y a eu la crise en Honduras, on en a discuté au niveau des trois chefs, etc. Donc, il y a quand même des consultations, mais ça reste un accord commercial, et je crois qu'il faut être réaliste. Pour le Canada, un des défis dans ses relations avec le Mexique, c'est toujours de pouvoir faire la différence avec le partenaire américain. Par exemple, prenons tout le dossier de la sécurité et de la lutte contre le narcotrafic, etc. Le Canada a annoncé un programme, 15 millions de dollars par année, pour le Mexique et l'Amérique centrale. Les États-Unis mettent 1,5 milliard. Alors, donc, c'est sûr que... Et c'est là que le Canada... Un peu le défi du Canada, c'est de trouver des niches, si vous voulez, où on peut faire la différence. Par exemple, on a une coopération très importante au niveau du système judiciaire. Donc, ça peut être une des niches. Mais quand même, on fait partie... Ce qui est intéressant, c'est que maintenant... Le dialogue bilatéral entre le Canada et le Mexique s'est beaucoup accru. On a des consultations pour la première fois dans le domaine militaire et de sécurité, ce qui n'avait jamais eu lieu entre le Canada et le Mexique. On a aussi des consultations dans le domaine de la sécurité. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un renforcement au niveau bilatéral. Il est important. Il y a une logique que ça devrait aller croissant parce que le Canada continue d'accorder une attention prioritaire aux Amériques, que dans le cadre des Amériques, le Mexique est, comme partenaire nord-américain, sera toujours, moi je dirais, un allié central pour le Canada, même si le Mexique a sa propre logique aussi, parce que le Mexique doit gérer ses relations avec l'Amérique latine, sa rivalité avec le Brésil et tout, qui fait que le Mexique a créé l'Alliance du Pacifique. Bon, le Canada, pour le moment, on s'interroge, on est observateur à l'Alliance Pacifique, mais peut-être qu'un jour, est-ce qu'on sera membre? Bon, c'est compliqué, le Brésil, mais on est bon. Mais le Canada et le Mexique peuvent travailler ensemble au niveau multilatéral, et je crois qu'on est en train de le faire pour ce qui s'appelle le partenariat transpacifique. Donc ça aussi, ça a été discuté au niveau trilatéral, et le président américain a accepté que le Mexique et le Canada puissent prétendre à être membres du partenariat transpacifique. Donc ça aussi, si vous voulez, c'est un développement très positif. Alors, si vous voulez, pour résumer, disons que le traité de libre-échange a apporté une croissance des relations du Canada dans tous les secteurs. Au niveau des échanges de personnes, par exemple, il y a 1 600 000 touristes canadiens qui vont au Mexique chaque année. Alors, c'est très impressionnant. Quand on regarde, on dit qu'il y a 10 000 étudiants mexicains au Canada. Il y a entre 75 et 150 000 Canadiens qui résident au Mexique, soit de manière permanente ou temporaire. Donc, il y a vraiment une effervescence, ce qui n'empêche pas, comme ont dit mes deux prédécesseurs, qu'il y a beaucoup de... Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des élites, surtout les élites économiques et les élites politiques, je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne compréhension de ce qu'est le Canada, de ce qu'est le Mexique, de ce qu'on peut faire ensemble. Mais au-delà de cette... au-delà des élites, là, il y a un grand défi. Et je crois que je lisais les conclusions des derniers groupes de travail. Et chaque groupe de travail, justement, dit l'important, c'est qu'il faut associer des acteurs du monde académique, de la société civile et tout dans les groupes de travail, justement pour diffuser davantage cette connaissance-là. Donc, je crois qu'il y a cette prise de conscience. Selon moi, ça va être assez lent, mais il y a cette prise de conscience et ça se passe. Et si on regarde au niveau institutionnel, il faut reconnaître au Québec la vision, puisqu'ils ont ouvert la première délégation en 80. Et ensuite, maintenant, il y a quand même deux autres provinces, l'Ontario et l'Alberta. L'Alberta plutôt, dans les années 90, l'Ontario 2005. Mais eux, ils ont choisi d'être à l'intérieur. Le Canada offre toujours deux possibilités. Les provinces veulent être à l'étranger, peuvent l'être de manière autonome, comme le Québec. Aussi, ils peuvent l'être aussi à l'intérieur de l'ambassade du Canada. Bon, certaines provinces trouvent que ça offre certains avantages puisqu'on leur donne un statut diplomatique, etc. Le Québec a un statut qui est pas aussi, qui dans les faits est équivalent, mais peut-être pas au niveau symbolique, si vous voulez. Mais donc, on voit qu'il y a un accroissement de l'intérêt des provinces, même l'Alberta, la Colombie-Britannique et tout. Donc, je pense que les bases sont là. Quand on regarde au niveau des universités, si vous voulez, il y a plus que 200 accords qui ont été signés entre l'université canadienne et l'université mexicaine. Et quand on regarde où sera où est le potentiel de croissance entre le Canada et le Mexique. Bon, ben, quand on écoute les déclarations du nouveau président qui veut un peu ouvrir tout le secteur énergétique au Mexique, c'est sûr que le Canada aurait l'ambition d'être le principal partenaire pour le Mexique dans le domaine de l'énergie. Alors, donc là, il y a une possibilité, le nouveau président veut ouvrir. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des entreprises canadiennes. L'autre secteur potentiel, l'éducation. Quand on regarde, si vous voulez, la démographie au Mexique, quand on regarde les universités canadiennes et tout, c'est sûr que là, il y a un potentiel énorme, soit pour accroître le nombre d'étudiants mexicains ici, soit pour développer des liens plus étroits entre les universités canadiennes et mexicaines, et échanger des programmes. Personnellement, moi, je suis un grand promoteur de ce que j'appelle notre défi, je pense, pour le Canada, et je suis sûr que c'est pour le Mexique, c'est les prochaines générations doivent être des citoyens du monde. Il faut que les prochaines générations aient la capacité d'agir au niveau international. Et la seule façon de faire ça, c'est que les universités puissent offrir j'espère que l'UQAM pourra le faire, des formations à l'extérieur. Ça serait idéal que chaque personne qui a un diplôme puisse avoir un semestre dans une université étrangère, que ça soit dans n'importe quel pays, mais on a le défi d'être citoyen du monde. Et je crois que ça, c'est un des défis des universités, c'est de former cette génération-là de citoyens du monde. Et le Canada et le Mexique sont peut-être en bonne position parce que par le Mexique, on a accès comme à l'espagnol, à toute l'Amérique latine et tout. Et en même temps, le Canada offre un environnement, je dirais, on dit toujours plus sympathique que l'environnement américain. Enfin, on veut croire qu'ici, la vie, elle est plus agréable, etc., etc. On ne parle pas du climat, bien entendu. Mais donc, là, il y a un potentiel dans le domaine de l'éducation. En terminant, je voudrais juste essayer d'identifier les défis qui sont posés à la relation. Bon, je pense que mes deux prédécesseurs l'ont dit, les visas. Bon, et les visas, il faut comprendre ce qui s'est passé. En 2009, en l'espace de 6 mois, le Canada avait des demandes d'environ 800 Mexicains par année pour le statut de réfugié. En l'espace de 6 mois, il en est arrivé 9 500. Alors, je ne sais pas si vous pensez, mais gérer ça, c'est tout un défi. Et on s'est aperçu qu'au Mexique, il y avait des tas de gens qui offraient à des gens aller au Canada. Vous allez pouvoir rentrer au Canada. Quand vous arrivez au Canada, demandez le statut de réfugié. Comme ça, vous allez avoir accès à toutes les services sociaux, etc. Puis ensuite, vous déciderez si vous voulez rester au Canada ou pas. Alors, il fallait faire quelque chose. Pour un pays comme le Canada, ce n'est pas possible de gérer l'arrivée de milliers et de milliers de réfugiés. Surtout que le Mexique, maintenant, a été élevé au niveau de pays qu'on appelle « sécure ». C'est-à-dire qu'on ne considère pas que la situation au Mexique est telle qu'elle peut justifier la demande de statut de réfugié. Peut-être dans des cas très particuliers, mais pas comme dans d'autres pays, par exemple, où il y a la guerre civile, etc. Mais donc, le Canada devait quand même faire quelque chose. C'est sûr que la décision la plus simple, c'est d'imposer le visa. Et ça s'est fait. C'était d'autant plus facile que quand on regarde l'espace nord-américain, les Mexicains ont besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. Alors, les Mexicains ont besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. Alors, les gens disent, c'est simple, on est espace nord-américain, pourquoi pas le Canada? Alors, la décision a été prise. quand les décisions comme ça sont prises, c'est pas évident de les renverser. Ce qui était intéressant, c'est lorsque le président Peña Nieto était ici, le premier ministre a fait une ouverture, a dit... Moi, ce que j'entends dire, c'est que l'ouverture au niveau politique, elle n'a pas encore pénétré au niveau des fonctionnaires. Mais donc, il y a une ouverture. Mais je crois que la solution, là, selon moi, est plus dans des arrangements, et on travaille beaucoup là-dessus, des arrangements pragmatiques, c'est-à-dire identifier une catégorie de voyageurs qui obtiendraient l'accès automatique, etc. Et il va falloir laisser le temps au Canada de revoir sa législation. Moi, j'étais en Europe avant, puis on avait le même problème avec la Hongrie, puis notre traité de nos négociations commerciales, a toujours cette épée de Damoclès en Europe, là, qui s'appelle le visa qu'on a imposé. Mais le Canada va devoir revoir sa politique de réfugiés, va devoir s'assurer qu'il va avoir les mécanismes que si quelqu'un n'est pas éligible très rapidement au statut de réfugié, il va devoir retourner dans son pays. Pour le moment, c'est pas comme ça. Pour le moment, quelqu'un dépose... Il y a tout un processus, le processus prend des années, etc. Donc le Canada a des devoirs à faire et je pense que moi je conseillerais à nos amis mexicains d'explorer ce que j'appellerais des approches pragmatiques, quoi. C'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens qui veulent voyager, les touristes, etc., ceux qui sont, je dirais, des voyageurs, quel mot? Je ne veux pas dire honnête, mais disons de bonne foi, puissent voyager et que les gens qui ne sont pas de bonne foi, on puisse les arrêter avant qu'ils quittent le pays. C'est la préoccupation du Canada. Alors, il y a peut-être des mécanismes là qui sont possibles pour permettre ça et je pense que c'est ce qui se fait beaucoup maintenant à Ottawa. On essaie de travailler dans ce sens-là et je suppose que aussi, comme le premier ministre a dit, il faut leur aider de manière permanente. On va le faire, mais encore là, je veux dire, ça ne sera pas demain matin, selon ma compréhension des choses. Donc, mais c'est un défi. L'autre défi, c'est toutes les questions de sécurité. Et là, c'est des questions très complexes, mais difficiles, etc. Mais au moins, maintenant, il y a des mécanismes, il y a des attentions, il y a des moyens. Les moyens que donne le Canada sont, comme moi je vous l'ai dit, sont un peu limités par rapport aux moyens américains. Et là, je pense que le gouvernement va devoir confirmer qu'il faut maintenir ces moyens-là, même si le gouvernement doit faire des coupures, etc. Il doit y avoir des priorités. Et jusqu'à maintenant, je pense que ces programmes-là ont été à l'abri des coupures que beaucoup d'autres activités dans le ministère ont dû souffrir, mais ce programme-là a été un peu à l'abri. À moyen terme, je pense que le grand défi, c'est d'avoir un projet commun entre le Canada et le Mexique, d'avoir une initiative commune au niveau international. Ayant été ambassadeur en Haïti, moi je dirais que là, il y a eu une occasion ratée. Parce que, mais là, on comprend, c'est la politique mexicaine de non-intervention dans les affaires intérieures d'un pays, etc., qui a fait que le Mexique a été... Et ce qui est intéressant d'Haïti, si vous voulez, hein, chacun a son petit bobo, qu'est-ce que vous voulez, j'ai été ambassadeur là-bas, donc j'en parle de temps à autre. Mais ce qui est intéressant d'Haïti, c'est que pour la première fois, quand il y a eu un problème, c'est devenu une initiative des Amériques. C'est les Amériques qui ont décidé de prendre en charge la situation en Haïti. Et ça, c'était nouveau. Et je crois que c'est à la fois très sain pour les Amériques, parce que ça montre que s'il y a un problème, on a la capacité comme région de s'en occuper. Alors, et à un moment donné, il a fallu déployer des forces des Nations Unies. Malheureusement, pour les positions constitutionnelles qu'on respecte du Mexique, le Mexique n'a pas été en mesure d'envoyer des forces militaires, si bien que le leadership a été pris par le Brésil. Et c'est le Brésil aujourd'hui, donc... Et là, il y avait peut-être une occasion. On a fait avec le Mexique quand même de la coopération au niveau des forces policières. On a fait de la coopération aussi au moment du tremblement de terre, etc. Mais là, je ne dirais pas une occasion ratée, mais il aurait pu y avoir quelque chose. Le Canada aurait été tout à fait d'accord que le Mexique prenne le contrôle des forces armées des Nations Unies si il y avait eu le déploiement de contingents mexicains. Maintenant, alors, il faut un projet. personnellement, je trouve que, et là j'avoue que depuis le début, je parle à mon nom, on est bien d'accord. Toute la région de la Caraïbe pourrait être intéressante pour le Canada et le Mexique. Parce que le Canada a une relation avec le CARICOM. Bon. Et en même temps, quand on regarde la région des Caraïbes, c'est une région qui n'est pas tellement intégrée. Les mécanismes qui existent, le CARICOM, les deux plus grandes économies, Cuba et République dominicaine n'en font pas partie. Bientôt, qui sait, il va falloir gérer la transition à Cuba. Et ça aussi, c'était une leçon d'Haïti qui était très intéressante. C'est que l'engagement des Latino-Américains en Haïti, c'est un message très clair à Washington de dire, écoutez, aujourd'hui, on a les moyens de gérer ce qui se passe dans la région. Et si un jour, il y a une transition à Cuba, pensez pas que ça va être une affaire américaine ou que ça va être une affaire de la Floride, là. C'est pas la Floride qui va gérer la transition à Cuba. Ça va devenir un enjeu des Amériques. Et là, à moyen terme, c'est pour ça que je trouve que la région des Caraïbes peut devenir un endroit intéressant quand on veut dire c'est une région qui va devoir évoluer. À un moment donné, il va falloir intégrer, que ce soit la République dominicaine, Cuba, etc. Quand on regarde le commerce intra-Caraïbe, tout passe par la Floride. Tout va en Floride, puis ensuite retourne, etc. Donc, il y a quelque chose là peut-être à faire pour le Canada. Il y a d'autres aussi enjeux de l'OEA, et on le fait bien. Je pense que comme on est membre du G20, à l'OCDE, tout, il y a des bonnes coopérations, mais il va falloir, si vous voulez, au niveau du défi, gérer ça, et en même temps, toujours la relation avec les États-Unis. Et je crois que, bon, comme je vous dis, chacun attache beaucoup d'importance à sa relation privilégiée, mais il va falloir, et je crois que par la force des choses, ça va arriver, parce que maintenant que les mécanismes sont là, maintenant que les trois chefs d'État se rencontrent, c'est inévitable qu'il y ait une dynamique. On doit avoir un ordre du jour. Aussitôt qu'il y a une question régionale importante, elle va être discutée. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il va y avoir un dialogue de plus en plus étroit au niveau politique, même si c'est irréaliste de penser qu'un jour, il y aura une région de l'Amérique du Nord. Peut-être que l'avenir ne me donne pas raison, mais personnellement, je n'y crois pas. Alors, voilà un peu... je vais peut-être arrêter là parce que je voudrais qu'on ait un dialogue. En terminant, juste une expérience personnelle qui m'avait fasciné quand j'étais à Mexico. On avait organisé c'est-à-dire qu'on était partenaire d'une exposition d'art inuit. Et on avait fait venir des artistes inuits et quelques familles inuites pour l'inauguration de l'exposition qui s'était passée au musée d'anthropologie à Tlatelolco. Et là, par hasard, il y avait des familles mexicaines de la région de Oaxaca. Et ce qui a été tout à fait fascinant, c'est qu'on a présenté l'exposition. Et tout d'un coup, quelqu'un m'a demandé de vous parler espagnol, un peu anglais. Et là, c'était fascinant de voir les Inuits qui discutaient avec les Indiens de Oaxaca. Ils disaient, on est le même peuple, on est le même pays, regarde, ton enfant pourrait être mon enfant. Et ça, c'était tout à fait inattendu là, de voir. Et ça rappelle, si vous voulez, les liens plus qu'anciens entre le Canada et le Mexique. Et ça aussi, ça peut devenir un autre, et on l'a déjà fait, secteur de coopération. Toute la gestion des politiques autochtones, toute l'intégration de ces sociétés-là dans l'ensemble national, etc., ça peut devenir aussi un secteur de coopération entre le Canada et le Mexique. Merci.